7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons de l'homophobie à travers des thérapies de conversion qui prétendent guérir les homosexuels. Rappelons que l'homosexualité n'est plus considérée comme une maladie mentale par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1990, depuis donc près de 30 ans. Et pourtant, il existe aujourd'hui dans de nombreux pays des groupes religieux, parfois aussi des psychologues ou psychiatres à l'éthique professionnelle douteuse, qui proposent non pas une écoute bienveillante, mais une conversion. Jean-Louis Adenor et Timothée de Roglaudre, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous êtes deux jeunes journalistes, vous avez
28 et 23.
Et 23 ans. 23, 28 ans, vous avez publié une enquête qui a duré 2 ans, qui s'intitule « Dieu est amour, infiltré parmi ceux qui veulent guérir les homosexuels ». C'est publié chez Flammarion, 300 pages. Vous avez notamment filmé des stages de pseudo-guérison. Et ça donne lieu d'ailleurs à un documentaire télévisé qui sera diffusé sur la chaîne Arte à la fin du mois de novembre.
Le 26 novembre.
Il s'agit donc de groupes ultra confidentiels en France, catholiques ou évangéliques, et qui gagnent du terrain, dites-vous, inspirés de pratiques américaines aussi mensongères que dangereuses. Des députés français souhaitent d'ailleurs légiférer. Vous allez d'ailleurs être auditionné à l'Assemblée nationale à la fin du mois de novembre. Également avec nous, Joseph Agostini. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicien. Vous allez nous expliquer pourquoi, aujourd'hui, dire à un jeune homosexuel de 20 ou 25 ans qu'il doit être soit abstinent pour le restant de ses jours, soit s'obliger à vivre avec une femme, est tout simplement dévastateur et homophobe. Et quant à vous, les voisins et les voisines, si vous vous sentez concerné par le sujet, vous pouvez nous téléphoner au 33 1 84 22 71. 71, c'est aussi le numéro gratuit WhatsApp. Vous pouvez aussi laisser des messages écrits. On effacera tout message appelant à la haine et à l'homophobie.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Nous l'appellerons Elena, c'est un prénom d'emprunt. Elle a 24 ans, elle a grandi en Grèce jusqu'à ses 18 ans. Elle a subi ce que certains appellent une thérapie de conversion, avec beaucoup de guillemets, imposée non pas par un groupe religieux mais par une vraie psychiatre en Grèce. Une démarche qui n'a rien de médical. Elena a accepté de se confier à Charlie Dupiot dans l'anonymat d'un café parisien. Elle tient aujourd'hui à témoigner.
Quand j'avais 14 ans, un jour, mes parents ont décidé de fouiller mon ordinateur. Du coup, ils ont découvert que je racontais à des copines de mon âge, tout ça, que je m'interrogeais sur ma sexualité, que je pensais être lesbienne, que je me sentais attirée par d'autres filles. Ils me disent donc très clairement qu'ils ont lu mes messages, qu'ils sont très déçus. Que c'était une maladie, qu'ils n'étaient pas fiers de moi, que j'étais contre nature et qu'il fallait agir là-dessus pour que je redevienne normale, donc selon leur dire. Qu'est-ce qu'on va faire de ce problème ? Ma mère m'avait déjà dit que pour elle c'était un problème psychologique. Mes parents ne sont pas spécialement religieux, ils ne sont pas croyants. Mais la Grèce reste un état très imprégné par la religion orthodoxe. Ensuite, ils m'ont proposé de voir une psychiatre qui s'était déjà occupée notamment d'un frère que j'ai, plus pour des problèmes d'apprentissage.
Qui était vraiment psychiatre, qui avait un cabinet de psychiatre ?
Ah oui, tout à fait, elle était psychiatre. Elle avait 60 ans. Je ne savais pas trop où elle voulait en venir. J'ai bien compris qu'elle était contre, que mes parents voulaient absolument que j'aie un suivi.
À quelle fréquence vous la voyez ?
Une fois par semaine. Elle m'a dit directement qu'elle avait une formation freudienne et que du coup elle allait essayer de creuser dans mon enfance pour voir d'où ça venait. Elle me faisait beaucoup d'interrogatoires. J'appelle ça un interrogatoire, de son point de vue c'était pas un interrogatoire. Pour... voir si je n'avais pas ce qu'elle appelait un trouble de l'identité. Si je préférais porter des pantalons ou des jupes, si je n'aurais pas voulu être un garçon, des choses comme ça. Si j'aimais le maquillage, si durant la semaine j'avais réussi à adresser la parole à un garçon quel qu'il soit, que des choses comme ça en fait. Elle m'avait aussi demandé de changer une ampoule dans son cabinet. Si j'arrivais à changer l'ampoule, ça voudrait dire que j'avais de la masculinité en moi et que peut-être que j'étais une vraie lesbienne. Mais que si je n'y arrivais pas, ça voudrait dire que j'étais une vraie femme au fond de moi et qu'il fallait continuer à travailler là-dessus. Voilà.
Ça vous fait rire aujourd'hui ?
Bah oui, c'était complètement dingue.
Combien de temps la thérapie a duré ?
En tout et pour tout, je l'ai vue pendant 1 an et demi. Mais j'ai arrêté de la voir vers 15-16 ans. Mes parents ne la supportaient plus. Eux-mêmes, ils commençaient à trouver qu'elle allait trop loin.
Ce sont vos parents qui ont mis fin à cette thérapie ?
Oui, tout à fait.
Aujourd'hui, on est 10 ans plus tard, 10 ans après le début de cette thérapie. Comment vous évaluez les conséquences que ça a eues sur vous ?
Beaucoup d'homophobie intériorisée. J'ai eu beaucoup de mal à accepter que j'étais lesbienne. Je voulais absolument être avec des garçons.
Entre quel âge et quel âge ?
Entre 18 et 20 ans. Parce que je me disais que c'est ce que je dois faire. Voilà, et qu'il suffisait que je me force un peu. Mais je sais que c'est la conséquence de cette thérapie.
Et ensuite ?
J'ai rencontré une fille avec qui je suis toujours aujourd'hui. Par rapport à mes parents, je leur en ai parlé. Ils n'ont pas pu cacher leur déception et ils m'ont dit que c'était pas ce qu'ils voulaient pour moi. Et je leur en ai voulu, mais plus maintenant, on n'en parle pas. Et je crois que c'est ce qui convient à tout le monde finalement.
Voilà, et Elena connaît 4 autres personnes en Grèce, des filles qui ont également subi ces tentatives de conversion avec des psychiatres. Joseph Agostini, vous êtes psychologue clinicien. Est-ce que cette pratique peut tomber sous le coup de la loi, par exemple ?
Oui, absolument. De toute manière, un projet de loi visant à interdire les thérapies de conversion s'annonce. Et je crois qu'effectivement, en entendant Elena, je crois forcément ça force la sidération dans la mesure où une thérapie de conversion, c'est toujours un dogme religieux, un dogme, une idée, un jugement de valeur sur une orientation sexuelle. Et d'ailleurs, en l'entendant, quand elle fait référence à Freud en disant que cette thérapeute était freudienne et qu'elle s'inspirait donc de ce qu'a dit le créateur de la psychanalyse, on ne peut qu'en rire dans la mesure où Freud n'a jamais dit que l'homosexualité était différente de l'hétérosexualité. Il disait que le sexuel était un problème pour chacun, qu'il fallait se le coltiner, qu'il fallait en faire quelque chose, trouver son style par rapport à son orientation sexuelle, à son identité de genre, et donc que cette thérapeute n'a strictement rien compris aux œuvres de Freud. C'est ce qui est d'autant plus à dénoncer. Hein. Ces thérapeutes-là ne comprennent rien à ce que la psychanalyse a dit toutes ces années.
Du charlatanisme, de dire si vous savez changer une ampoule, vous avez de la masculinité en vous, c'est vraiment rien d'autre que du charlatanisme.
Du charlatanisme et surtout des clichés tellement gros, tellement lourds qu'ils en sont obscènes, dans la mesure où effectivement changer une ampoule n'appartient pas au genre féminin ou masculin, ça saurait. Et justement, si ça appartenait, si jamais ça appartenait à un quelconque genre, ce serait à modifier. Dans la mesure où aujourd'hui on sait que la femme réclame une égalité et aspire à être l'égale de l'homme.
Jean-Louis Adenor et Timothée Droglaudre, vous avez rencontré un psychologue en France qui est aujourd'hui à la retraite, qui avait ce même genre d'activité ?
Alors, on n'a pas rencontré nous-mêmes, on est parti du témoignage d'un autre journaliste qui s'appelle Alexandre Malesson. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est un psychologue diplômé qui a enseigné à l'université jusqu'à très récemment et qui vient seulement de partir à la retraite. Et c'est vrai que voilà, il nous a raconté qu'il y avait des choses assez hallucinantes, il y avait des choses qu'on avait déjà entendues, c'est-à-dire le mélange de pseudo-psychologie et de spirituel. Ça s'est revenu tout au long de notre enquête. Mais il y avait aussi des choses qu'on n'avait jamais entendues sur les perturbateurs endocriniens qui pourraient favoriser l'homosexualité ou ce genre de choses. Et ça, c'est une personne diplômée parce que nous, on a identifié des personnes qui n'ont pas de diplôme, des thérapeutes qui proposent des accompagnements sans être diplômés ni de psychologie ni de médecine. Mais il y a aussi des personnes qui ont suivi un enseignement tout à fait reconnu et qui pratiquent
ça, c'est
ce
grave,
genre de choses.
Ouais. Au mieux, c'est une insulte à l'intelligence humaine et au pire, ce sont des pratiques dangereuses. Jean-Loup Adenor, pourquoi vous avez choisi l'immersion avec une fausse identité en filmant en caméra cachée dans des groupes, alors là, dans des groupes religieux, pour comprendre en quoi consistaient ces thérapies de conversion, même si le mot n'est pas utilisé comme tel en France.
Alors, en fait, quand on a commencé cette enquête, on a commencé par s'intéresser au phénomène américain, savoir ce qui s'est passé là-bas. On savait que ça existait, que ce type de groupe existait aux États-Unis. Et quand on a identifié les deux groupes qui faisaient ça en France, on s'est dit que ce serait impossible d'obtenir une information de première main par des canaux traditionnels. En fait, c'est des groupes qui ont lissé leur communication, qui ne parlent pas aux journalistes, les témoins sont extrêmement discrets parce que ce sont des problématiques qui sont extrêmement intimes, ce sont des gens qui ne souhaitent pas parler de ce qui leur arrive. Et on s'est vite rendu compte que pour avoir l'information, en fait, il allait falloir participer à des séances, il allait falloir infiltrer les groupes. Donc c'est là qu'on a pris la décision de le faire. Pas par plaisir, mais parce qu'on en était obligé, en fait.
Vous avez donc coincé une caméra dans un bouton de chemise.
C'est ça, oui.
C'est ça, c'est ce qui a donné lieu ensuite au documentaire qui sera diffusé à la fin du mois de novembre sur Arte. Timothée Droglaude, ces pratiques sont presque toujours liées à la religion ?
Alors, en France, dans le contexte français, oui. Aux États-Unis, il y a un paysage beaucoup plus divers parce que ça existe depuis beaucoup plus longtemps. Mais en France, c'est quelque chose qui s'est développé depuis les années 90 dans deux milieux chrétiens très particuliers, les évangéliques, qui sont une branche du protestantisme, une branche très conservatrice, et le catholicisme charismatique, qui est une branche du catholicisme elle-même inspirée de l'évangélisme. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que systématiquement dans ces groupes-là, il y a un mélange entre une lecture très littérale de la Bible et des théories donc pseudo-psychologiques, souvent inspirées justement d'un freudisme assez dévoyé. Et voilà, et comme dans le témoignage d'Elena, il y a beaucoup de références au traumatisme dans l'enfance, où on va chercher dans des dysfonctionnements parentaux, dans des abus sexuels, les origines de l'homosexualité.
D'ailleurs, dans le témoignage d'Elena, on entend qu'il dit à un moment, il voulait que je redevienne normal. Et ça, c'est génial parce que c'est exactement ce qu'on entend dans les groupes religieux de Torrent de Vie et Courage. En fait, l'identité originelle, elle est hétérosexuelle dans leur théorie. Il y a quelque chose qui vient dévoyer cette identité-là et qui rend la personne homosexuelle. Et donc, tout le travail de ces groupes-là, qu'ils soient simplement pseudo-psychologiques ou qu'ils soient religieux comme ceux qu'on a infiltrés, c'est de ramener la personne vers elle-même, entre guillemets. Bien sûr, tout ça se dit avec toutes les guillemets qui s'appliquent, comme si l'hétérosexualité précédait, en fait, la déviance qui serait survenu par la suite.
Et c'est tout le danger d'ailleurs de ces groupes de parole.
Oui,
vous pouvez redevenir normal.
Effectivement, et puis l'idée aussi que la norme rend heureux, que la norme épanouit, alors qu'on sait très bien les désastres de la norme et les désastres de cet hétérocentrisme forcené qui a rendu bien des gens malheureux, bien des couples dans un échec amoureux et dans un échec existentiel. Et justement, l'homosexualité reconnue reviendrait peut-être enfin à s'extraire de cette barbarie de la norme.
Et à mieux comprendre qui l'on est vraiment. Alors Jean-Loup Adenor, vous avez suivi deux groupes. Le groupe Courage, oui. Qui est un groupe catholique, fondé en 2014, qui d'ailleurs a pignon sur rue à Paris.
Alors, pignon sur rue, pas vraiment, mais en tout cas, c'est un groupe qui est assez facile à joindre, oui, et qui est gratuit d'ailleurs, qui a une vraie tradition d'accueil. Donc, par exemple, moi, j'ai pas eu de difficulté à assister à un de leurs rendez-vous, à un de leurs groupes de parole. Alors, je dirais pas qu'ils ont pignon sur rue parce que c'est quand même des gens qui sont discrets et que c'est des choses qui se passent quand même dans un contexte assez occulte quand même. Mais oui, ils sont pas difficiles à trouver.
Et puis le groupe Torrent de Vie.
Et le groupe Torrent de Vie, qui est un groupe évangélique, qui pour le coup, lui, est extrêmement bien développé en France. Il y a 14 villes françaises qui comptent une antenne de Torrent de Vie en France. Torrent de Vie étant lui-même inspiré du parcours américain Living Waters, qui est présent dans 40 pays. Donc voilà, il y a vraiment un phénomène d'expansion et un peu un phénomène de filiale, en fait, qui se développe dans le monde.
Et donc à Paris, à l'église évangélique de Belleville, pour ne pas leur faire de publicité. Une personne qui se présente comme catholique peut participer à un stage évangélique ?
Absolument, ce sont des rendez-vous qui sont œcuméniques et ça participe de cette tradition d'accueil en fait. Il faut bien comprendre que ces groupes-là, passer la première méfiance qu'ils ont, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont contre ce qu'ils appellent l'esprit du monde, qu'ils sont un peu contre, l'évolution de la société, une fois qu'on passe cette première méfiance-là, ce sont des gens, là je parle des organisateurs, qui sont vraiment dans l'accueil, voire dans le prosélytisme en fait. L'idée c'est vraiment, de Tourandi veut vraiment réunir les chrétiens. D'ailleurs, j'ai croisé dans mon infiltration à Châlons en 2018 un prêtre catholique, plusieurs prêtres catholiques d'ailleurs, qui étaient venus participer soit pour des raisons personnelles, soit pour s'inspirer des méthodes de Tourandi, parce qu'ils ont compris que ce groupe-là attire les gens, que Tourandi a été créé en 95, ils se sont étendus extrêmement vite en France en 30 ans et donc du coup ils ont vraiment compris qu'il y avait quelque chose qui se passait et qu'il fallait voir et qu'il fallait pouvoir s'inspirer de leur méthode en fait. Ouais,
mais alors ça attire qui aujourd'hui dans des pays où l'homosexualité n'est plus pénalisée?
Alors, oui, effectivement, il y a cette question de qui est-ce qui pourrait avoir recours à ce type de groupe. Moi, les gens que j'ai rencontrés à Tourandi et à Courage sont plutôt des hommes entre 45 et 55 ans, je dirais, qui ont bataillé toute leur vie avec leur orientation sexuelle. Et je dirais qu'en fait, peu importe que l'homosexualité soit pénalisée ou non, peu importe qu'elle soit considérée comme une maladie ou non, en fait, Elena, elle parle d'homophobie intériorisée. Ça, c'est très fort, parce que ce sont des gens qui ont passé toute leur vie à détester ce qu'ils étaient. Et cette homophobie intériorisée, elle a été nourrie pendant longtemps en fait. Donc c'est ce type de personnes-là qui a besoin de ces groupes-là. Ouais.
Alors vous allez bien sûr nous décrire comment se passent ces groupes de parole et en quoi justement ils peuvent faire tellement de mal. C'est un sujet en tout cas qui a inspiré le cinéma américain récemment, extrait de deux fictions.
J'ai rompu avec Chloé. On a rompu parce que je crois que c'est vrai. À mon sujet, je pense aux hommes. Je sais pas pourquoi.
Cela sera peut-être les 12 jours les plus durs, mais les plus gratifiants que certains d'entre vous connaîtraient. Mais nous n'avons qu'un seul devoir. Nous ramener à Dieu. Et l'inviter à revenir en nous, pour comprendre comment il voulait vraiment nous créer avant que tous ces morceaux soient dispersés. Nous allons entreprendre un voyage extraordinaire, tous ensemble. Qui se sent prêt ? C'était une question. Qui se sent prêt ? Dites amen.
Amen.
Amen. Amen. Si vous savez que vous valez un dollar, dites amen.
Amen. Amen.
Bienvenue au programme Refuge. Allez !
Bienvenue à God's Promise.
Vous êtes à un âge où on est particulièrement vulnérable face au mal.
Le Seigneur saura me transformer à travers sa parole.
On va travailler ensemble pour découvrir ce qui t'a conduit ici.
Cameron. Tu dois lutter contre le péché d'attirance envers le même sexe. Tu dois assumer les conséquences de tes actes, et ils sont sordides.
Salut, t'es toujours dans ce centre ?
Parle-nous de cette fille que tu voyais chez toi.
La première étape, c'est d'arrêter de te considérer comme étant homosexuel.
Je me considère pas comme une homosexuelle. Je me considère comme rien du tout, en fait.
J'en ai ras-le-bol d'avoir honte de ce que je suis.
On vient d'entendre les extraits de deux films américains, Boy Erased, qui est sorti l'année dernière, il y a Nicole Kidman d'ailleurs qui joue dans ce film, et puis aussi le film Come As You Are, c'est l'histoire d'une adolescente lesbienne qui est envoyée par sa tante chez les disciples de la promesse de Dieu, un camp de rééducation évangélique, pour guérir de son homosexualité. Est-ce que ça ressemble à ce qu'on entend, ce que vous avez vécu, Jean-Louis Adenor, dans votre infiltration dans ces groupes?
Alors, Le discours qu'on a entendu là dans les bandes annonces est assez similaire et je vais vous expliquer pourquoi, mais en revanche le pitch des films est très différent. On avait construit Guilhem, le personnage qu'on a utilisé pour s'infiltrer dans les groupes de guérison sur le modèle américain en fait.
Guilhem, c'est le personnage que vous jouez.
Exactement.
Pour vous infiltrer.
Exactement. Et comme on avait commencé à travailler sur le phénomène américain, en fait on s'est inspiré de ce qui se passait là-bas pour pouvoir intégrer ces groupes, et on s'est rendu compte qu'en France la situation était assez différente en fait. Là on entend deux adolescents qui sont sont plus ou moins envoyés par leurs, qui sont envoyés d'ailleurs par leurs parents ou par leur famille pour guérir de ces penchants-là à un âge où ils sont en construction et où ils se rendent compte qu'ils sont homosexuels. En France, la situation que j'ai constatée est très différente. La plupart des gens que j'ai rencontrés ont pas du tout entre 15 et 18 ans, sont pas du tout là à cause de leurs parents, ne sont pas du tout contraints d'aller dans ces groupes, en fait. Les gens que j'ai vus sont des gens qui sont absolument volontaires dans ce qu'ils font. Et ça a été très difficile à comprendre aussi quand on est arrivé dans ces groupes-là. On s'est rendu compte que voilà, ce sont des gens qui avaient besoin d'aller dans ces groupes-là et qui avaient besoin de trouver cet accueil et cette parole-là, en fait. En revanche, sur le discours, là, on retrouve absolument toutes les théories de torrent de vie ou de courage. Hein. On entend le fait que la création de Dieu est hétérosexuelle, ça, c'est ce qu'ils disent, avant que les morceaux soient dispersés, c'est ça ?
Exactement.
Donc, encore une fois, on revient sur l'identité profonde hétérosexuelle dévoyée par la culture, l'environnement, la possession démoniaque, parce que c'est ce qu'on entend hein, plus ou moins en sous-texte dans la bande-annonce, et c'est ce qui est dit également chez Torrent de Vie, c'est quelque chose que j'ai pu constater.
L'homosexualité est jugée satanique.
Alors, elle est jugée satanique, alors elle est jugée comme un péché, c'est la base. Quand on arrive chez Torrent de Vie, quand j'arrive chez Torrent de Vie en été 2018, au début, on est beaucoup sur du pseudo-psychologique. On va chercher la blessure de l'enfance, la cassure dans la famille, etc., etc. Puis en fait, à mesure que les jours passent, je me rends compte que le discours est beaucoup plus mystique, beaucoup plus spirituel, en fait. Et on arrive sur ce troisième jour, on a une intervenante qui nous donne un enseignement et qui nous dit le démon est très doué pour s'infiltrer dans nos blessures sexuelles. C'est ce qui est dit dans la bande-annonce, je crois. Hein. Et là, je comprends qu'en fait, elle fait un lien direct entre l'orientation sexuelle homosexuelle et la possession démoniaque ou l'influence démoniaque. Satan, l'adversaire, Baal, voilà, il a plusieurs noms, mais c'est la même idée derrière tout ça.
Ça incrimine du coup forcément les parents. C'est-à-dire que si vous êtes homosexuel, donc malheureux, donc pas normal, c'est de la faute aussi de ce que vous avez vécu de votre enfance, de vos parents.
Oui, et puis effectivement, dans tout ce qui est dit dans le livre, apparaît bien une chose, hein, c'est que le sexuel est un problème pour ces gens-là. Il faut le dire quand même. C'est-à-dire que c'est pas tant l'homosexualité, c'est le sexuel, la pulsion, hein, quelque chose qui nous déborde, quelque chose qui va à notre insu. Et c'est très simple de diaboliser cette chose-là, dans la mesure où tout ce qui excède, en quelque sorte, la raison, peut nous perdre. Hein. Il y a une sorte de ruine comme ça de la raison quand la pulsion prend le dessus. Or, on a d'autres choix dans la vie. Il s'agit de l'assumer, cette chose-là, d'assumer la part obscure en nous-mêmes, d'assumer le sexuel et l'étrangeté. Et ces gens-là en sont bien incapables. Et c'est ce qui est dangereux dans leur manière, dans leur prosélytisme. Hein. Ils souhaitent que ces jeunes se normalisent, se normosent, pour être plus exact.
Et est-ce que, vous l'avez quand même dit dans le livre, Jean-Louis Adenor et Timothée Droglaudre, il y a un accueil bienveillant dans ces groupes. Hein. Il n'y a absolument pas d'éducation à la haine.
Ça a été une discussion qu'on a eue avec Timothée assez tôt dans les infiltrations. En fait, on s'est rendu compte, on s'est posé la question de la motivation des organisateurs. Pourquoi est-ce qui faisait ça. Alors, aux États-Unis, Timothée vous en parlera mieux que moi, beaucoup des organisateurs sont eux-mêmes concernés par l'homosexualité et vivent eux-mêmes très mal ça. Mais les groupes que j'ai infiltrés, en tout cas, Torrent de Vie en France, c'était pas le cas. Donc on s'est demandé pourquoi, qu'est-ce qui faisait que ce Werner Lorscher, le pasteur qui a créé Torrent de Vie en 95, a créé Torrent de Vie. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'enrichissement personnel, qu'il n'était pas concerné par l'homosexualité, et on a compris que le pasteur Lorscher était habité par une mission. En fait, il veut accueillir et aider les homosexuels. Et il en est sincèrement convaincu.
Aux États-Unis, c'est plus un business, Timothée Droglaudre ?
Pas forcément. En fait, il y a certains thérapeutes individuellement qui se sont enrichis grâce à ça. En fait, l'origine de ces mouvements-là, qui s'appelle ex-gay aux États-Unis, elle remonte aux années 70.
Ex-gay, qui laisse entendre qu'on peut
anciennement homosexuel.
C'est ça, qu'on peut être un ancien homosexuel.
Et en fait, c'est des mouvements qui naissent dans les années 70, un peu du choc entre deux mouvements. D'un côté, la libération des homosexuels, les droits homosexuels qui commencent à être revendiqués après les émeutes de Stonewall. Et de l'autre côté, la montée des évangéliques, très conservateur, très dynamique chez les jeunes. Et donc, dans le milieu gay, il y a des personnes qui vont se convertir au Christ et prétendre avoir guéri, grâce à Dieu, de leur homosexualité. Et après ça, ces groupes se sont étendus aux États-Unis et au monde entier.
Il y a en France, dans les groupes que vous avez infiltrés, Jean-Louis Adenor, des témoignages de personnes devenues hétérosexuelles, heureuses, réconciliées avec leur famille, etc.
Absolument, et bien sûr.
Pour faire croire à la démarche.
Alors, Torrent de Vie fait beaucoup ça, en fait. Torrent de Vie aime beaucoup donner un enseignement et amener quelqu'un sur la scène qui va donner un témoignage extrêmement édifiant. Ça a été le cas l'été 2018, la session de Chalon, où un homme est venu nous raconter à la tribune que voilà, il avait vécu une vie d'homosexuel extrêmement malheureuse, qu'il avait été vraiment dans un désespoir terrible, et que grâce à Torrent de Vie, grâce à l'œuvre de Dieu, grâce au Christ, il avait été restauré, et que maintenant il était marié, qu'il avait une petite fille. Il dit, je crois, vous pouvez pas savoir ce que ça fait comme bien d'être un homme pour ma femme et ma fille. Donc c'est quand même un discours qui est très fort. Et à la sortie de ce, et c'est bien ce qu'il faut comprendre, à la sortie de ce témoignage, je vais le voir et je lui dis, c'est incroyable, un témoignage comme le tien pour quelqu'un comme moi, c'est vraiment la preuve que ça marche, quoi, qu'il y a une solution possible, il y a une restauration réelle. Qu'est-ce qu'il me répond? Et c'est la réponse qu'on a eue à chaque fois qu'on a posé la question. Il nous répond, tu sais, c'est un combat de tous les jours. Et ça, il faut le dire qu'à Orléans, le créateur de Torrent de Vie aux États-Unis, qui s'appelle Living Waters, qui s'appelle Andrew Comiskey, le pasteur américain, lui-même nous dit qu'il n'est pas débarrassé de ce qu'il appelle l'idolâtrie, à savoir l'attirance homosexuelle. Lui-même qui se considère comme étant restauré. Et c'est tout le piège, en fait. La restauration qui est proposée par Torrent de Vie, c'est pas le fait de redevenir hétérosexuel et d'être débarrassé, entre guillemets, des attirances homosexuelles. C'est de se limiter, de se contrôler, oui, de se retenir toute sa vie. Et ça, il faut le comprendre.
On est sur le modèle des alcooliques anonymes.
Bah justement, un des deux groupes sur lesquels on a enquêté, Courage, a été créé en 1980 à New York par un prêtre qui s'est explicitement calqué sur les alcooliques anonymes. Et donc, en France, c'est repris. Jean-Loup a pu y assister. Il s'assoit en cercle et chacun commence par dire « Bonjour, je m'appelle Guilhem et je suis attiré par les personnes du même sexe. » Donc, c'est la même assimilation de l'homosexualité à une addiction.
Il y a un prêtre, je crois que c'est dans le groupe Courage, Jean-Loup Adenner, puisque vous jouez votre rôle de Guilhem, attiré par les garçons. Et voici ce qu'il vous dit à un moment. Il vous dit, si j'étais vous, je garderais au fond de moi ce désir de mariage, hein, puisque vous lui dites que vous avez fait une tentative avec une fille, et je tairais cette découverte de 14 ans. Je me dirais, je vais me donner les moyens d'aller jusqu'au bout, ce sera un combat héroïque. Si je regarde de la pornographie, par exemple, je dois m'efforcer de ne pas regarder le garçon et de me concentrer seulement sur la fille.
Ouais, ce prêtre n'est pas au courant de l'existence du porno gay, visiblement, mais bon, c'est pas très grave. Oui, c'est assez hallucinant ce qui se passe dans cette confession que je donne au père de, qui est l'aumônier en fait du groupe Courage. Là, on voit bien toute la mécanique qui se met en place en fait. Ce qui se passe concrètement, c'est que ce prêtre, il me repère le soir où je vais en infiltration à Courage, et il me propose de venir le voir plus tard dans son église. J'y vais, et en lui donnant mon discours, quand il entend que j'ai été avec une fille avant, il y a son œil qui s'allume et il se dit, il y a un espoir, on peut le restaurer. Et il me dit même, vous savez pas la chance que vous avez, moi je connais des gens, ils peuvent même pas regarder une femme nue. Donc c'est pour dire que si j'avais pas eu cette expérience hétérosexuelle, ma seule option, ça aurait été ce qu'ils appellent le martyr de la chasteté, à savoir devoir me retenir toute ma vie, être seul toute ma vie. Et donc c'est pour ça qu'il m'encourage, il me conseille même d'aller voir ce qu'il appelle une psychothérapeute, mais qui n'en est pas une finalement, que je rencontre plus tard dans le livre.
Ouais. Donc vous êtes toujours dans votre rôle de Guilhem, jeune garçon attiré par les garçons. Le mot d'homosexualité, d'ailleurs, n'est jamais prononcé dans ces groupes.
Oui, c'est ça. En fait, il y a un terme qui est beaucoup utilisé, c'est l'attirance pour le même sexe, qui est une traduction directe de same-sex attraction qui est utilisée aux États-Unis.
Pourquoi on ne parle pas d'homosexualité?
Bah déjà, c'est une manière de médicaliser de médicaliser cette orientation sexuelle, même si c'est pas dit comme ça. Mais il y a une espèce de tabou, parce qu'aujourd'hui, quand on dit alors homosexualité à l'origine, c'était un terme médical, mais maintenant, la société ayant globalement accepté ça...
C'est une orientation sexuelle.
Voilà.
Hein.
Donc, et y a aussi l'idée, chez ces groupes-là, qu'il ne faut pas se mettre d'étiquette, qu'on n'est pas un homosexuel, on est avant tout une personne. Et ça c'est très proche de ce qui existe chez les alcooliques anonymes.
Oui, mais ça peut aussi être revendiqué par la cause.
Oui, mais là,
on est d'abord une personne humaine avant
de la même façon. En fait, ce qu'il faut dire, plus que il ne faut pas se revendiquer comme un homosexuel, c'est qu'il n'y a pas d'homosexualité. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on est hétérosexuel et tout ce qui dépasse de ça, tout ce qui est déviant par rapport à ça, ne constitue pas une identité ni une orientation. Ça ne constitue que des déviances ou des attirances.
Alors, beaucoup plus grave, dans votre livre, ce qu'on voit bien dans le discours que vous subissez en tant que Guilhem, personnage fictif, c'est l'estime de soi. C'est-à-dire qu'on vous dit tout le temps, finalement, mais non, tu vas travailler sur l'estime de toi-même, tu vas pouvoir t'aimer mieux, etc. Comme si c'était la promesse d'une réconciliation avec vous-même.
Oui.
Or, c'est tout le contraire. C'est en ça que c'est très pernicieux, quand même.
Exactement. Il y a tout un discours d'amour et de respect de soi-même, alors que le discours qu'il leur est proposé en face, c'est bien le rejet de ce qu'ils sont, en fait. Donc, il y a une espèce d'ambivalence comme ça qui est très forte. Et il y a aussi quelque chose qui a été dit tout à l'heure par Elena, la jeune fille qui témoignait, sur l'identité de genre, où la psy lui demande de visser une ampoule. Si tu sais visser une ampoule, c'est que tu as des qualités masculines. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez Torrent Vie aussi, où en fait, en travaillant sur ton genre, donc en tant qu'homme, si tu aimes les hommes, c'est que tu ne te sens pas toi-même assez homme, donc on va te faire te sentir homme de façon à ce que tu aimes les femmes. Ce qui est catastrophique à des différents degrés, mais c'est vraiment cette espèce de confusion entre orientation sexuelle et identité de genre qui est très très forte.
Ouais, alors ceci dit, aujourd'hui, les questions sur la masculinité, elles ont tout à fait leur place dans le débat de société, hein, mais là, c'est encore une fois, ce sont des questions qui sont complètement dévoyées.
Il y a surtout quelque chose, absolument, il y a surtout quelque chose d'excessivement binaire, hein, c'est-à-dire on ne peut pas être masculin et féminin, alors qu'on sait tous que la personnalité est bisexuelle. Il y a une bisexualité psychique, pas, attention, hein, dans l'acte sexuel, on n'est pas tous bisexuels, en revanche, on a tous une part féminine, une part masculine. Et on choisit de l'utiliser. Et il y a aussi un inconscient à l'œuvre qui fait qu'on se dirige davantage vers sa féminité ou sa masculinité. Et là, c'est vraiment prohibé, mais de manière extrêmement grossière, le masculin ou le féminin. C'est comme si on était réduit à être quelque chose. Tout ça par peur. Moi, je crois qu'effectivement, il faut le dire, c'est d'abord la terreur. Ce sont des peureux, ce sont des frileux, des espèces de maniaques de la norme, hein, qui essayent effectivement de rendre ces jeunes comme eux. Et c'est ce qui est le plus dégoûtant dans leur manière de procéder.
Ouais, et de réexpliquer finalement aux gens que l'homosexualité, au lieu d'être une orientation à la marge, est bien une pratique anormale. Et on finit par le croire. Vous êtes vous-même parfois posé la question, Jean-Louis Adenor, et s'ils avaient raison
Plusieurs fois, oui. Plusieurs fois, et surtout pendant l'infiltration qui a été assez longue de la semaine entière à Chalon. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que tout ce qui, dans ces groupes-là, tout ce qui ne va pas chez soi est ramené à la question de l'absence de Dieu, du besoin d'accueillir Dieu, d'accueillir la foi, d'accueillir l'amour. Et en fait, c'est un discours qui est extrêmement, extrêmement efficace. C'est des gens qui vont dire... C'est normal que tu ne te sentes pas bien en tant qu'homosexuel parce qu'il y a une anormalité. Il y a quelque chose qui est fondamentalement mauvais et tu le ressens. C'est ce que dit le prêtre dont on parlait tout à l'heure d'ailleurs pendant la confession. Il me dit, quand on est homosexuel, bon, on sent bien au fond que quelque chose qui va pas, quoi, que c'est pas normal. Et ce discours-là, en fait, il est redoutable, il est extrêmement efficace. Et il est efficace sur les hommes que j'ai côtoyés dans ces groupes, qui ont donc entre 40 et 60 ans, mais il doit être extrêmement efficace sur les adolescents, qui sont en pleine construction de leur identité.
Alors justement, Timothée Droglaude, sur quoi vous vous basez pour affirmer que ces pratiques sont en plein essor à l'heure actuelle? Parce que ça reste quand même ultra, ultra minoritaire. Hein.
Alors, il n'y a pas de chiffres qui existent pour l'instant. En revanche, c'est assez facile de le démontrer parce que avant les années 90, il n'y avait aucun groupe ex-gay en France. Ça n'existait pas, il n'y avait pas de groupe spécifiquement qui se créait pour guérir l'homosexualité, entre guillemets. Et à partir de 95, donc Torrent Vie est le premier à se créer. Et depuis, il y a une quinzaine d'antennes qui ont ouvert en France, donc à un rythme assez, assez soutenu. Et après la Manif pour tous en 2014-2015, c'est autour du groupe Courage, donc là, catholique cette fois,
de s'implanter en France. La Manif pour tous contre le vote du mariage homosexuel, hein, reprécisons bien. Ces pratiques extrêmement minoritaires, vous diriez qu'elles ne reflètent pas les positions de l'Église ou que c'est compliqué?
Alors, elles ne reflètent pas l'évolution que prend l'Église actuellement, que prennent les Églises, puisque du côté protestant, l'Église principale, luthéro-réformée, a ouvert en 2015 la bénédiction aux couples de même sexe. Donc il y a vraiment une avancée vers plus d'ouverture. Et du côté de l'Église catholique, c'est un peu différent, mais depuis la Manif pour tous, ce qu'on a appris, c'est que entre un tiers et la moitié des diocèses français ont mis en place des parcours pour accueillir les homosexuels sans, contrairement à Courage, mettre de conditions de vouloir devenir, de vouloir rester abstinent. C'est vraiment des parcours d'accueil inconditionnel. Donc on parle entre un tiers et la moitié des diocèses contre trois diocèses qui soutiennent Courage en France.
Vous le dites dans l'introduction, vous n'avez pas voulu écrire un livre antichrétien.
Non, non, pas du tout. C'est un livre qui parle de ce qu'on appelle une minorité bruyante. C'est-à-dire que c'est effectivement des courants minoritaires chez le dans le protestantisme et dans le catholicisme. En revanche, déjà, ils font beaucoup de bruit, on l'a vu avec la Manif pour tous. Et c'est aussi des courants qui sont en croissance, parce qu'en France, une église évangélique ouvre tous les 10 jours. Et de la même façon, la communauté de l'Emmanuel qui a accueilli Courage en France de plus en plus de prêtres et d'évêques dans l'épiscopat français.
Une minorité bruyante et qui contrevient quand même au respect des droits humains. Alors, est-ce qu'il faut interdire ces groupes, ces pratiques? On va en discuter notamment par rapport aux tentatives de recruter des jeunes dans ces groupes de parole. On en discute juste après Eddy de Préto.
Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire, et je sais si ce sont tout de même les pires à venir, te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid, loin de toi, c'est fini. Finesse tactique de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon, et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Tu seras viril, mon kid, je veux voir ton tympan se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid, tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid, tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tout sens, des fils raptaires et dopés de chair de nerfs protéines. Et tu seras viril, mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.
Kid, Eddy de Préto, nous parlons de ces pseudo-thérapies de conversion pour les homosexuels et qu'ils deviennent hétérosexuels à la lumière de cette enquête « Dieu est amour » infiltrée par ceux qui veulent guérir les homosexuels. Vous êtes nos invités, Jean-Louis Edénor et Timothée de Roglaudre, chez 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI, également avec nous un psychologue clinicien, Joseph Agostini. Dans votre enquête, qui est basée essentiellement sur des groupes en France et puis aussi aux États-Unis. On sait que ces groupes existent également en Suède, en Suisse, en fait dans de très nombreux pays, hein, même si vous n'avez pas pu faire une enquête exhaustive. Alors, on parlait de la question des jeunes, là, juste avant la chanson. Timothée de Roglaudre, vous citez, vous accusez, vous incriminez un lycée parisien privé catholique.
Alors, en fait, ce qu'on raconte, c'est que pendant deux années, en 2017 et 2018, le lycée Stanislas, donc catholique, sous contrat, très prestigieux, a accueilli dans les murs du collège un rassemblement de chrétiens, congrès mission, dans lequel le père Louis-Marie Guiton, cofondateur de Courage France, est venu présenter cette association et son objectif de maintenir les homosexuels dans l'abstinence pour être conforme à la voix du Christ. Ce qu'on a découvert aussi, c'est que l'ancien aumônier du groupe Courage, Philippe Demestre, était au même moment aumônier à Stanislas. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous a permis de découvrir qu'en fait, les mouvements ex-gays en France, non seulement se développent, mais essayent de développer leur offre à destination des jeunes. Parce que ce que Jean-Louis a vu dans ses infiltrations, c'est que c'est une moyenne d'âge beaucoup plus âgée que ce qu'on pensait. En revanche, quand Jean-Louis croise le père de Mestre dans une église protestante, il lui dit « Tu sais, Guilhem, j'aimerais bien développer, créer un groupe spécifiquement pour les jeunes parce que j'entends beaucoup de besoins là-dessus en confession. » Et on ne sait pas trop s'il parle des confessions dans son église ou dans l'enceinte de Stanislas.
Est-ce que le lycée Stanislas vous a menacé d'engager des poursuites judiciaires à la suite du livre ?
Non, pas du tout, parce que de toute façon, il n'y a rien d'illégal à accueillir quelqu'un qui a un discours de thérapie de guérison.
C'est un établissement scolaire qui n'aime pas quand même qu'on parle de lui en termes non élogieux.
Ça avait déjà été fait, oui. Par exemple, l'ancien directeur avait envoyé une lettre à tous les parents d'élèves en leur suggérant d'aller manifester avec la manif pour tous. Donc
contre le mariage homosexuel. Vous allez être auditionnés tous les deux, Timothée Droglaudre et Jean-Louis Adenor, fin novembre à l'Assemblée nationale. Pourquoi faire ?
Ben, on va raconter déjà, Jean-Louis va pouvoir raconter ce qu'il a vu de l'intérieur, parce que c'est la première fois que des journalistes passent autant de temps dans ces mouvements ex-gays en France. Et on a aussi notre autre valeur ajoutée, c'est un vrai recul, parce qu'on a fait un vrai travail de documentation pour comprendre d'où venaient ces groupes, comment ils sont implantés en France. Donc on peut, sans évidemment... jouer le rôle des pouvoirs publics à leur place, on peut donner quelques pistes pour lutter contre ces pratiques.
300 pages d'enquête. Est-ce que vous pensez qu'il faut interdire ces groupes, Jean-Louis Adenor ?
Alors, la question est assez piégeuse. En fait, nous, il y a quelque chose contre lequel on considère être une mauvaise idée, c'est la dissolution des groupes. On considère les groupes qui existent. Je parle de Courage et de Torrent de Vie, en l'occurrence, et puis d'autres groupes qui seraient identifiés comme tels en France. Pour pouvoir travailler sur ces groupes, pour pouvoir encadrer leurs pratiques et pour pouvoir protéger les victimes, on pense que la dissolution est une mauvaise idée. Nous, pour notre enquête, on a eu besoin d'identifier ces groupes-là. On s'est servi de choses banales comme le journal officiel, les déclarations d'association. Pour que la justice puisse travailler, il faut que ces groupes-là puissent être identifiables aussi. Les dissoudre, ce ne serait pas arrêter leur activité. Ces groupes-là pourraient y avoir été. Je sais très bien que si on les dissolvait demain, ils continueraient à se rencontrer.
Ça ne peut pas être assimilé à une secte et donc tomber sous le coup des interdictions de la MIVILU, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.
Il y a eu une tentative en 2012-2013, quand il y avait une polémique sur Torrent de Vie, la Mivilude a reçu le passeur de Torrent de Vie. Le problème avec l'approche sectaire, c'est qu'il manque ce critère financier. Donc, comme on disait, il n'y a pas de business a priori dans ces groupes-là. Et de toute façon, même un mouvement identifié comme ayant des dérives sectaires ne peut pas être dissous aussi facilement que ça.
Mais alors, quelles sont les solutions ? Qu'est-ce qu'il faut faire ?
En revanche, nous, ce qu'on trouve être très pertinent, c'est de travailler sur les victimes, en fait, parce que nous, ça a été une partie de notre travail aussi, interroger les témoins, comprendre ce qui leur est arrivé, voir à quel moment ils se sont reconnus, sentis victimes de quelque chose qui leur a échappé et qui leur a fait du mal. Et voilà, on considère que si le législateur doit intervenir sur ces questions-là, ce qu'il faudrait, c'est donner le moyen juridique aux personnes qui se considèrent, qui se reconnaissent comme victimes, de porter plainte, de traîner en justice les groupes qui leur ont causé du tort, et que ces groupes-là puissent être condamnés.
Sous quel motif ?
Eh bien, ça, c'est à la députée de le déterminer, mais et on pourrait créer une infraction pénale particulière.
Abus de faiblesse quand on est majeur et qu'on est venu de son plein gré.
Bon, il y a des choses qui existent dans la loi.
Il n'y a pas d'emprise, vraiment, comme dans les sectes
il y a une partie d'emprise. En fait, là, pour l'instant, il y a vraiment un vide juridique. C'est-à-dire que dans la loi, il y a des choses qui existent, mais ça ne suffit pas à la victime pour se reconnaître en tant que telle. Et des qualifications pénales spécifiques pour les thérapies de guérison ont déjà été créées en Europe, à Malte et dans deux régions espagnoles. Et et dans d'autres pays dans le monde, par exemple au Brésil ou aux États-Unis.
C'est votre livre. Alors, le documentaire n'est pas encore sorti. Il sera diffusé sur Arte le 26 novembre, mais le livre est déjà sorti depuis quelques semaines maintenant. Vous avez reçu quoi comme type de réaction ?
Alors, qu'est-ce qu'on a reçu comme type de réaction ?
Est-ce que vous avez reçu des menaces ?
Des institutions en question, on n'en a pas reçu réellement. De ceux qu'on a mis en cause, vous citiez le lycée Stanislas, on n'a pas eu de réaction. Les institutions religieuses, on n'a pas non plus eu de réaction. On a eu, de façon extrêmement minoritaire, des réactions de personnes qui se trouvaient dans les groupes que j'ai infiltrés. On en a vu une particulièrement qui a réagi.
Qui se sont sentis trahis.
Évidemment, et c'est absolument légitime de leur part. Et moi, j'assume absolument que ce travail contient une part de trahison, à mon avis nécessaire, malheureusement. Mais voilà, le travail devait être fait et il a dû être fait comme ça. La réaction qu'on a le plus souvent, c'est on fait bien ce qu'on veut, on est libre d'être là, ce qui est vrai. Où sont les victimes ? Plus, c'est des questions qu'on nous pose régulièrement.
Alors qu'on apporte des témoignages de victimes dans le livre.
Les victimes sont dans notre livre et dans le documentaire. On invite d'ailleurs les gens qui ont participé à ces groupes à regarder le documentaire du 26.
À
20h50. Et pour la partie, on fait bien ce qu'on veut, effectivement, bien sûr, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas un phénomène à décrire, à dénoncer, et c'est pas pour autant qu'il ne peut pas y avoir des conséquences extrêmement dommageables pour eux, même s'ils sont volontaires et même s'ils sont libres d'y aller.
Ça, on a compris. Hein, prédire à un jeune qui a 25 ans que soit il reste abstinent toute sa vie, soit il s'oblige à avoir des relations avec le sexe opposé alors qu'il a une orientation homosexuelle, c'est quand même proposer un avenir plus que sombre et un droit au bonheur complètement confisqué. Joseph Agostini, j'aimerais qu'on donne quelques conseils pour des jeunes qui nous écoutent, qui ne vivent pas forcément bien leur homosexualité. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui ?
Écoutez, moi je suis secrétaire d'une association qui s'appelle PsyGay, qui est une association qui propose à des jeunes confrontés à l'homophobie de venir nous voir, d'une part au centre LGBT pour des consultations gratuites, et en consultant aussi un annuaire de psychologues, cliniciens, psychiatres, psychanalystes, sensibles à cette cause et capables de les accueillir inconditionnellement. Mais ce que je constate surtout, c'est que finalement ce qui est dangereux et ce qui est à dénoncer, d'abord, c'est le prosélytisme de ces gens qui font des amalgames extrêmement toxique. C'est formidable de sublimer sa pulsion, pourquoi pas essayer effectivement de vivre autrement sa sexualité, de vivre autrement son style d'être au monde, d'avoir un rapport à la fringale sexuelle, tant dans l'hétérosexualité que dans l'homosexualité aujourd'hui dans nos sociétés, avec les applications de rencontres, avec tout ce qui est à portée de main, un rapport différent. Pourquoi pas ? Mais ce qui est terrible et ce qui mène au suicide, à la dépression chez ces jeunes, c'est de les amener sans prendre en compte leur subjectivité, sans prendre en compte leur personnalité, en leur disant voilà, l'homosexualité est un crime et on va te guérir. C'est cette manière finalement les discriminer sans réellement les prendre en compte qui est criminelle et à dénoncer.
Ouais, alors on est bien d'accord que consulter un psy, un psychiatre ou un psychologue, que l'on soit homosexuel ou hétérosexuel, n'a rien d'anormal à partir du moment où c'est quelqu'un qui exerce son métier normalement. Il faut peut-être le redire, parce qu'avec tout ce qu'on a dit sur...
Mais je crois que c'est formidable de faire une psychothérapie, une psychanalyse. C'est quelque chose qu'on doit souhaiter à ces jeunes, qu'ils soient homosexuels, hétérosexuels.
Ah, c'est pas obligé non plus.
Non, mais de se découvrir. C'est-à-dire, non, mais je crois que ce qui est recommandable, c'est de se découvrir, c'est d'aller à la rencontre de ses tabous, de ses interdits, de ses limites, et d'essayer justement d'y voir plus clair. Ça, je trouve ça formidable. Ce qui ne l'est pas, c'est que le thérapeute en face nous condamne. Pour une orientation sexuelle, pour un genre qu'on revendique.
Jean-Loup Adenor, on ne sort pas indemne de 2 ans d'infiltration ?
Alors, l'infiltration n'a pas duré 2 ans, elle a été en dents de scie sur 1 an. Ce qui est certain, c'est
oui,
que...
Oui, je me doute que vous n'avez pas passé 2 ans dans des stages.
Non. Sinon, je pense que je ne serais pas là actuellement. Mais oui, ça a été compliqué, ça a questionné beaucoup de choses chez moi, et pas nécessairement les choses auxquelles je m'attendais le plus. Le rapport à la religion a été un des questionnements qui a été complètement inédit et que je n'avais pas du tout envisagé avant d'y aller. Ce qui est certain, c'est c'est que maintenant, avec du recul et avec tout le travail qui a été fait, je suis très inquiet pour les gens qui sont dans ces groupes-là. Voilà, ça je peux le dire aujourd'hui.
Eh bien, écoutez, c'est pour ça que vous êtes venus et qu'on a fait cette émission. Merci à tous les deux, Jean-Louis Adenor, Timothée de Roglaudre. Dieu est amour, infiltré parmi ceux qui veulent guérir les homosexuels. C'est publié chez Flammarion. Merci à vous, Joseph Agostini, psychologue, clinicien, et à l'association Psy Gay. Merci à toute l'équipe, Juliette Brault, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera éducation comme chaque vendredi. Gros plan sur la réussite scolaire des enfants d'enseignants. Ils disent n'avoir aucune recette avec leurs enfants, mais alors comment font-ils? Pourquoi leurs enfants ont de si bonnes notes si vous êtes prof? C'est à vous de nous répondre au 33 1 84 22 71 71.